autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour nous interroger sur le vivant, tout le vivant dans son extraordinaire diversité, mais aussi dans son extrême fragilité. Comment, en pleine épidémie de coronavirus, après Ebola, le SRAS, les grippes porcines et aviaires, face au double défi de la perte de la biodiversité et des crises sanitaires, comment repenser ensemble tout le vivant, depuis les bactéries et les virus qui nous constituent, jusqu'au grand primat que nous sommes, en passant par tous les autres animaux, la faune et même la flore, nous sommes tous liés et interdépendants par nature. En prendre réellement conscience implique de changer d'approche, de croiser les regards et les disciplines, de relier écologie de la santé et biodiversité. Une approche évolutive, interdisciplinaire, défendue par une communauté de chercheurs engagés, comme notre invité Michel Gauthier-Claire, docteur en écologie et en médecine vétérinaire. Autour de la question « Comment repenser ensemble tout le vivant ?» et pourquoi il y a urgence aujourd'hui? Première piste de réponse du chercheur en biologie de l'évolution, François Renaud.
Il faut casser les cloisons. Il faut casser les cloisons des disciplines. Il n'y a pas la discipline médicale. Les médecins, on en a besoin. Ils sont fondamentaux. On voit très bien aujourd'hui, on voit leur action qui est fondamentale. Mais ils soignent, ils doivent soigner au moment où le mal est fait. Mais travaillons avec eux pour essayer de limiter justement ce mal. Et c'est en concert, tous, que l'on va pouvoir aller plus loin. Et aujourd'hui, je trouve que les choses sont trop cloisonnées, trop parcellaires, et que justement, on n'arrive pas à aller plus loin.
Comment aller plus loin? Comment repenser ensemble tout le vivant? Bonjour Michel Gauthier-Claire.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes docteur en médecine, vétérinaire et en écologie, spécialisé dans la conservation de la nature, chercheur associé au laboratoire Chrono-Environnement de l'Université de Franche-Comté. Vous venez de publier, Michel, aux éditions de Bock, La belle histoire de la vie. Superbe album, magnifiquement illustré, qui retrace toute l'exploration du vivant. Après avoir, il y a 10 ans déjà, publié avec Frédéric Thomas, autre chercheur engagé dans cette nouvelle approche évolutive et interdisciplinaire du vivant, Écologie de la santé et biodiversité. Un ouvrage où vous faisiez le point sur les recherches et où vous mettiez en lumière le lien entre la crise environnementale et la santé humaine et animale. Il y a 10 ans déjà, pourquoi est-ce que c'est si compliqué à entendre et surtout à faire passer?
Pour rebondir sur ce que disait François Renaud, on a travaillé ensemble dans le sud de la France, à Montpellier. Moi, je travaille en Camargue. Je crois que la problématique, c'est des gens en fait qui sont chacun, on va dire, comme au sport, dans leur couloir et qui ont du mal à échanger. Et dans le cas des problématiques de santé, on va avoir les approches médicales qui vont être de dire, alors voilà, moi comme vétérinaire, on va recevoir un animal, on va essayer de soigner cet individu. Ce jour-là, il est soigné, on a réussi. Puis à l'approche écologique, en fait, des chercheurs en écologie qui essaient de savoir en fait pourquoi en fait cette maladie est arrivée, comment elle est arrivée là, pourquoi on est arrivé à une forme par exemple très pathogène alors qu'avant elle ne l'était pas. Donc c'est la difficulté, c'est des gens qui vont travailler. Alors les deux sont utiles, mais il y en a qui sont, je dirais, plus reconnus. Si vous travaillez comme véto en urgence, vous serez beaucoup plus reconnu en fait par la société. Et si vous travaillez en écologie sur le très long terme, sur des dizaines d'années, et que vous travaillez, voilà, moi on m'a renvoyé ça. On travaille sur les petits oiseaux, oui, on travaille sur la nature.
Parce que vous avez, alors j'ai omis de le dire, mais vous avez, c'est un constat que vous avez fait, vous avez été directeur de recherche pendant près de 12 ans de la Tour du Valat en Camargue, c'est ça, qui est un centre de recherche écologique. Vous avez travaillé sur les oiseaux, les flamants roses et pas que, avec les moustiques aussi. Hein.
Voilà, c'est ça, donc c'est un centre de conservation pour la nature. Et puis moi, voilà, j'étais dans l'équipe qui s'occupait des vertébrés et on travaillait, donc la Tour du Valat travaille depuis des dizaines d'années sur les suivis des oiseaux. Et c'est vrai qu'on avait commencé à travailler avec... Alors, il y a des cloisons qui n'existent pas entre certaines personnes en général, pas au niveau, je trouve, institutionnel, au niveau politique, au niveau financier. Il y a encore toujours ces cloisons. Puis après, il y a des personnes qui se rencontrent. Alors voilà, on avait à Montpellier le CNRS, l'IRD, et on avait l'Institut Pasteur, donc Sylvie van der Werf, notamment, avec elle, on avait commencé à travailler sur les virus de grippe des oiseaux, mais tranquillement, vous voyez ce que je veux dire, sur le long terme.
Le long terme, et pas seulement au moment de la grippe aviaire.
Exactement, H5N1. Et quand H5N1 est arrivé, ça a été une des réactions qui était à l'époque, on va dire, à côté de la plaque, disproportionnée. Ce n'était même pas encore une maladie qui se transmettait d'humain à humain. Et on n'avait pas le recul. Alors, l'Institut Pasteur avait déjà travaillé en Camargue dans les années 70 là-dessus, pour savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe. Les grippes, en fait, sont chez les canards, notamment chez les oiseaux, et circulent de façon naturelle, on va dire tranquillement, sur des formes non pathogènes. Et déjà,
ça ne les rend pas malades, ces oiseaux.
Non, c'est un peu. C'est, normalement, la plupart des formes ne les rendent pas malades. Donc, c'est le monde normal, voilà, tel que ça se passe. Ça évolue avec les canards. Et puis on a la grippe humaine aussi à l'origine, hein, vient aussi probablement lors de la domestication, en fait, des canards, où il y a eu transmission, en fait, de grippe. Puis
on a ça serait aussi une zoonose au départ.
Ça l'est toujours, en fait.
Ça l'est toujours.
C'est-à-dire que vous avez certaines formes de grippe, si vous prenez le H5N1, qui peuvent passer. En fait, voilà, on a des recombinaisons, en fait, entre les oiseaux, les cochons, etc. Et on est là à réagir au dernier moment lors de la crise, et on n'a pas encore compris comment ça marche en temps normal. Et ça, il faut du long terme, il faut de la recherche fondamentale pour essayer de savoir comment ça se passe et comment on passe d'une forme qui est, on appelle ça faiblement pathogène, à des formes très pathogènes. Et qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi c'est plutôt en Chine? Pourquoi c'est dans des modes d'élevage très particuliers? Voilà, pourquoi, comment ça... Et c'est pas juste au dernier moment, comment on fait pour soigner? C'est anticiper tout ça.
Mais du coup, effectivement, c'est vraiment interdisciplinaire. Il faut du temps, hein, le long temps de la recherche. Et il faut relier, oui, écologie, santé animale, santé humaine. Pourquoi aussi est-ce tellement en lien avec la perte de la biodiversité? On a du mal, ça, à faire ce lien-là.
Alors, pour donner je vais rester sur les canards. Vous avez des dizaines d'espèces de canards sauvages, et puis vous avez des dizaines de virus de grippe, en fait, qui circulent dans ce petit monde. Et puis on va prendre un autre exemple. Voilà, on a il y a de la compétition entre virus. Il y a de la compétition, donc ça se maintient. Et puis pour faire le parallèle, vous prenez un élevage intensif, confiné. Avec des poules, par exemple, qui ont toutes, ou des canards qui ont exactement tous le même profil. Si vous avez un virus là-dedans qui arrive à passer une forme hautement pathogène, il va se répandre extrêmement rapidement. Et dans la faune sauvage, on ne détecte pas de forme hautement pathogène qui arrive à se maintenir. Ça veut dire qu'il rentre probablement, ça faudrait le comprendre, en compétition avec d'autres virus, il y a d'autres espèces. Et on voit en quoi, là, dans ce cadre-là, la biodiversité vous permet d'avoir des formes aussi probablement plus atténuées, moins virulentes.
De l'intérêt de conserver, de préserver la biodiversité à absolument tous les niveaux. Ça rejoint votre album « La belle histoire de la vie ». Alors, autour de la question, comment penser ensemble, justement, tout ce vivant, toute cette biodiversité et jusqu'où ? L'hypothèse Gaïa, l'hypothèse d'une terre vivante, toute la terre elle-même vivante, considérée comme un organisme vivant, refait surface. Vous en parlez dans cet ouvrage, « La belle histoire de la vie ». Elle fait même ce mois-ci la une du mensuel Science et Vie, sous le titre « Et si la Terre était vivante ?», avec un dossier consacré donc à ce retour de l'hypothèse Gaïa, émise il y a 50 ans par un scientifique génial, mais aussi controversé, James Lovelock, qui fêtait en juillet dernier sa conserve ses 100 ans. Écoutez un extrait du reportage que consacrait à James Lovelock le très sérieux hebdomadaire britannique The Economist.
James Lovelock's work has changed the way scientists look at everything from the common cold.
Le travail de James Lovelock a totalement changé le regard porté par les scientifiques sur tout ce qui nous entoure, du rhume à la vie sur Mars. Il a inventé un appareil permettant de détecter les gaz CFC, nocifs pour la couche d'ozone, précurseur de la détection des trous dans la couche d'ozone dans toute l'atmosphère terrestre. Son approche révolutionnaire de la Terre, à considérer comme un être vivant, c'est-à-dire un système singulier, complexe et autorégulateur, a totalement transformé la perspective écologique, la manière de comprendre la Terre comme un système vivant. Il a nommé cette hypothèse Gaïa, du nom de la déesse grecque de la Terre.
Gaïa est le nom donné au système d'organismes qui vivent sur Terre et maintiennent son climat propice à la vie.
Mais la Gaïa de James Lovelock n'est pas une gentille déesse qui protégerait l'humanité d'elle-même. Pour James Lovelock, les humains ont poussé Gaïa à ses limites. Si la Terre pourra éventuellement se rééquilibrer, il sera probablement trop tard pour l'espèce humaine. À moins que les hommes ne commencent à changer radicalement. Unless humans start making drastic
changes. Vous en pensez quoi, Michel Gauthier-Clerc, de cette hypothèse Gaïa qui peut un peu faire New Age, ou qui a été un peu soit complètement négligée, soit mise en avant de manière un peu folle. Mais aujourd'hui, c'est quand même une grille de lecture qui semble fonctionner.
C'est une grille de lecture, oui, mais qui est peut-être pas. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à dire que la Terre soit vivante, parce que c'est une approche un peu, je dirais, spirituelle.
C'est ça.
On peut dire qu'on est sur la même, sur la même planète et qu'on doit cohabiter ensemble, parce que vous voyez, la Terre, elle a plein de choses qui ne correspondent pas à ce qu'on définit par le vivant. Elle ne se reproduit pas, elle n'est pas en compétition avec une autre, elle n'est pas soumise à la sélection. Et simplement dire qu'on est des milliards d'êtres vivants avec des millions d'espèces et qui devons, qui cohabitons sur cette même planète, je pense que c'est assez suffisant pour porter les mêmes messages qu'ils portent, hein, mais sans aller jusqu'à dire que
sans aller jusque là, c'est ça. Il vaut mieux parler du vivant vraiment. C'est-à-dire le vivant, c'est quoi alors? Les virus, c'est quand même, il n'y a peut-être pas la définition absolue du vivant, mais quand même le vivant, ça va des bactéries, des virus, jusqu'au plus grand primate que nous sommes. C'est très très large le vivant.
Oui, c'est très très large. Et puis c'est cette notion de, ce qu'on appelle l'écologie au terme scientifique, c'est la science des interactions. Voilà. Donc c'est tous ces êtres vivants qui sont en interaction, alors qui sont aussi en interaction avec leur environnement physique, mais qui sont en permanence. Alors on parle toujours parce que dans Darwin on met compétition, mais non, il y a aussi la coopération, il y a la symbiose, il y a plein de choses, la solidarité, il y a plein aussi dans le vivant, c'est pas la compétition et le meilleur gagne, il y a plein de stratégies qui sont, nous on a les mitochondries en nous, on a le microbiote en nous, tout ça c'est pas des choses qui sont en compétition avec nous, on est avec eux.
On vit avec, et grâce à eux aussi. Et grâce à eux.
Voilà.
Et c'est un peu ça qu'on a complètement oublié de penser et qu'on a l'impression qu'ils nous ressautent, j'ai envie de dire, à la figure aujourd'hui, avec notamment toutes ces épidémies.
C'est-à-dire qu'on est. C'est la force de l'humain, c'est d'arriver à. Enfin, notre intelligence au sens, après on peut redéfinir ce qu'est l'intelligence, mais en fait ce qu'on est capable, c'est d'arriver à contrôler notre environnement. Et ça, c'est une grande force. Et si on prend le coronavirus aujourd'hui, on aimerait bien avoir le contrôle, c'est-à-dire avoir un vaccin. On est tous à se dire, super, il faudrait qu'on ait un vaccin. Donc on a tous cette propension à se dire comment on arrive à contrôler notre environnement. Donc contrôler, ça veut dire pouvoir manger. Aujourd'hui, on est à 19 degrés ici, on est bien, on a pu manger tranquillement sans se poser de soucis. Et puis, si on a une maladie, on veut en être protégé. Voilà, on a ce contrôle-là. Et puis après, actuellement, ça va très, 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 très vite. Et on a du mal à anticiper, en fait, parce que quand on prend le contrôle, on perturbe aussi, en fait, l'environnement. Donc, il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Et c'est comment on arrive toujours à se protéger et on crée de plus en plus d'effets.
C'est aussi changer quand même complètement de paradigme. On va retrouver François Renaud, ce chercheur, directeur de recherche CNRS et IRD, qui promeut ce qu'on appelle aussi la santé globale ou One Health ou Eco-Health, quelque chose comme ça. C'est aussi un changement complet de paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toujours besoin de contrôler, on est de plus en plus nombreux sur Terre, mais il faut qu'on s'adapte autrement, il faut qu'on apprenne à vivre avec ou à laisser un peu de temps. Comment vous voyez ça? Au fond, on a l'impression que c'est un énorme changement que vous... une poignée de chercheurs là, qui travaillaient ensemble avaient déjà fait dans votre tête.
Disons qu'il y a eu un peu le fantasme qu'on allait pouvoir effectivement toujours avoir tout sous contrôle. Et ça peut se comprendre. Hein. Il y a eu les antibiotiques, il y a eu Pasteur au 19e, les antibiotiques, les vaccins, etc. La variole, quand on a vaincu la variole, on s'est dit c'est bon, on va tous les éradiquer. Enfin, on va y arriver.
C'est ça.
Bon, après, il y a les résistances aux antibiotiques qui sont arrivées. Il y a les résistances des moustiques. Il y a l'environnement qui se dégrade. Donc, on s'aperçoit qu'on ne peut pas arriver à tout contrôler. Et effectivement, la notion du lutter contre, par exemple, un antibiotique, en face, ça résiste. Donc, il y a aussi comment on fait pour arriver quand même à vivre avec et faire attention aux antibiotiques. Et en ce qui concerne les maladies, je prends l'exemple de la peste, par exemple. La peste, elle est là. Hein. Elle est partout dans le monde.
Elle est là.
Elle est là. En fait, elle est dans les réservoirs sauvages. Il y a des cas, il y en a en Asie centrale, il y en a eu en Algérie en 2003. Donc, elle est là et on sait, on a l'antibiotique, on a l'OMS, il y a plein d'organismes qui sont prêts aussi à intervenir. Et je prends l'exemple, c'est pas impossible qu'un jour elle arrive à Marseille, elle est arrivée à Oran. Mais il faudrait que les gens soient préparés, que ça va aller. On a les antibiotiques, on a les méthodes de contrôle. Et le risque, ça va être plutôt de la réaction, de la surréaction. On va penser à la peste comme elle avait lieu au 14e siècle. Et en fait, la peste, elle est dans le monde entier. Elle est à Madagascar, elle est en Asie centrale.
Mais on peut vivre avec, suivre de très près. Ce qui montre aussi l'importance d'avoir de la recherche en amont et pas seulement au moment pile poil de la catastrophe.
Par exemple, le cas de la peste, quelque part, on vit avec puisqu'elle est dans ses réservoirs sauvages. Après, il y a des pays où effectivement, il n'y a pas assez de moyens. Je prends le cas de Madagascar où il faudrait plus d'aide pour les aider justement à mieux lutter contre. Mais on peut vivre avec. Après, effectivement, on a besoin quand même de ces techniques. Je reprends là du côté plutôt des... On prend le coronavirus, on a besoin... Là, on veut le vaccin très rapidement. Si on avait travaillé en amont aussi, le coronavirus, le SRAS, c'était déjà ça. On sait que les chauves-souris ont une immunité spéciale qui fait qu'elles ont plein de virus avec lequel elles vivent, mais nous, on ne vit pas bien avec.
C'est ça. Donc, il ne faut surtout pas que ça passe la barrière des espèces. On va y revenir, mais avant, je propose de retrouver donc votre collègue, François Renaud, directeur de recherche CNRS et IRD à Montpellier. Il est aussi médaille d'argent du CNRS et promoteur inlassable, comme vous, de l'approche donc One Health, de santé globale. On le retrouve pour un éclairage indispensable, précisément, sur ces nouveaux virus émergents, à commencer, évidemment, par le coronavirus.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pathogènes, c'est-à-dire ceux qui nous attaquent, les méchants, ceux qu'on présente toujours comme ceux qu'il faut éliminer, il n'y a pas que des virus. Il y a aussi des bactéries, il y a des parasites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une énorme diversité de pathogènes. Et en fait, les pathogènes, comme nous, exactement comme nous, ils font partie du grand livre du monde du vivant. Donc eux aussi font partie de la biodiversité. Et on les oublie bien souvent parce que, justement, c'est des méchants. On voit les jolies orchidées, les petites mésanges. Et c'est vrai que c'est important. Mais il y a aussi les pathogènes qui sont là. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur écosystème? Leur écosystème, c'est le vivant. En fait, quelque part, le vivant, pour moi, c'est un monstre. Le vivant, il a conquis le vivant. Il a une soif de conquête sans fin. Et il cherche toujours, toujours à conquérir. Et à mon avis, sa plus belle conquête, c'est la conquête du vivant, c'est la conquête de lui-même, en fait. Et c'est ce qu'on appelle tous les pathogènes. Et nous sommes des écosystèmes. Donc ça, c'est le premier point. Il faut que l'homme garde en mémoire qu'il est un écosystème. L'humanité est un écosystème et chaque individu en est un qui en fait partie. Si on enlève, par exemple, tous les micro-organismes qui vivent en harmonie ou pas avec nous, on perdrait 2 à 3 kilos. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiome. Mais on ne pourrait pas vivre sans eux non plus. Donc, maintenant, envisager de vouloir tout éliminer est une ineptie. Le problème, c'est ceux qui vont devenir ce qu'on appelle pathogènes, c'est-à-dire la dangerosité de certains, et le coronavirus défraie l'actualité, bien évidemment, à ce sujet-là. Nous sommes plus de 7 milliards d'individus. Et on me dit que dans 40 ans, 50 ans, on sera 9, voire 10 milliards d'individus. Alors, premier point, c'est, vous imaginez l'augmentation de cet écosystème pour les pathogènes. Parce que les pathogènes, ils attaquent une ressource qui est à leur portée, qui est diversifiée. Et la démographie fait qu'on augmente cette ressource sur la Terre. Donc l'homme sera sujet aux attaques des pathogènes. Automatiquement, cette modification, d'une part de l'écosystème population humaine, et d'autre part de la détérioration évidente qu'il y aura des écosystèmes dans lesquels ils vont entrer, va générer de façon inéluctable de nouvelles zoonoses, comme on l'observe aujourd'hui. Alors, maintenant, la question, c'est comment faire et y pallier. Je pense que ça, c'est une question extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce qu'elle ne peut se situer qu'à l'échelle mondiale. Et ça fait des années que je dis qu'il va falloir mettre en place de véritables observatoires de santé dans le cadre des maladies infectieuses. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre, en tous les cas, essayer d'interpréter les paramètres présents dans le milieu qui peuvent présenter des risques pour les transferts sur les populations humaines. Il y a dans beaucoup de pays du monde des gens qui sont très compétents dans ce domaine-là, mais il n'y a aucune, je dirais, concertation qui se fait. Or, je pense qu'aujourd'hui, la preuve en est avec ce coronavirus, le H5N1, le H1N1, le VIH et l'Ebola. Je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire qu'il y ait vraiment une concertation mondiale par rapport à cela, et une prise en compte vraiment de la science qui, j'appelle moi la science de l'écologie et de l'évolution de la santé. Donc, tout organisme, puisque j'ai dit qu'il faisait partie du monde vivant, comme vous et moi, si je vous laisse, madame, pendant un quart d'heure sous l'eau, que je vous ressors, je ne sais pas si vous serez en pleine forme.
Non, je ne suis pas sûre.
Enfin, vous n'êtes donc pas adapté pour vivre sous l'eau. Eh bien, de la même façon, les virus, les pathogènes, ont un triptyque biologique, tout comme nous, tout comme vous et moi, et il faut comprendre les paramètres clés de ce triptyque biologique et écologique, de leur dispersion dans l'environnement, pour essayer de leur faire mal, parce que je le dis et je le répète, dans le cadre des maladies infectieuses, et ce n'est pas une lapalissade, la meilleure façon de se soigner, c'est de ne pas tomber malade. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on isole les gens? C'est pour éviter que les autres à côté soient malades. Or là, on a attendu que l'incendie se déclare, comme chaque fois. Et une fois que l'incendie est déclaré, eh bien on essaye par tous les moyens de le fixer, pour employer le mot des professionnels du feu, de le fixer. Mais une fois qu'il est fixé, il n'est pas pour autant éteint, les braises sont toujours là. Il suffit que le vent souffle, il suffit qu'il y ait des, je dirais, conditions du milieu qui soient favorables à sa réémergence et il repartira. Voilà. Donc c'est à ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui, mais ça c'est une concertation mondiale, et je ne sais pas si tous les politiques de tous les pays, et je ne montre personne du doigt et tout le monde du doigt, sont prêts à avoir cette démarche.
Vous avez quelque chose à ajouter, Michel Gauthier-Clair, à cette démonstration terrible et magnifique de François Renaud?
Pour juste prolonger par rapport à la suite, est-ce que les politiques sont prêts? Moi je ne pense pas. Parce qu'actuellement, on voit la politique de la recherche hein, telle qu'elle est en France, telle qu'elle a été exprimée ces derniers temps. On est sur une approche projet, donc ça va être du 2-3 ans, du court terme.
Oui, il faut prouver qu'on a un projet sur 2-3 ans. On ne peut pas dire qu'on va étudier pendant 10 ans les chauves-souris réservoirs de virus.
Voilà. Et donc ça veut dire, il y a le coronavirus qui va, tac, on va mettre beaucoup d'argent pour développer le vaccin, tac, pendant 3 ans, puis on attend la prochaine, quoi. Alors que l'argent devrait être aussi, voilà, en parallèle mis sur voilà, ce que disait François Renaud, par exemple les observatoires de long terme, c'est ce que nous on avait essayé de faire en Camargue avec l'Institut Pasteur. Voilà, on le faisait principalement sur des fonds privés, qui étaient la Tour du Valais, c'est une fondation privée, l'Institut Pasteur, fonds privés. Dès qu'on veut faire des suivis à long terme, tout simplement d'oiseaux, en fait, il n'y a pas d'argent pour ces observatoires dont parle François Renaud. Il y a très peu d'argent.
Et est-ce que vous pensez que peut-être une des belles choses qui pourrait sortir de cette pandémie, il y a d'autres épidémies actuellement dans le monde aussi, hein, autour d'Ebola. Est-ce que vous pensez que ça ne va pas un petit peu nous pousser à réfléchir autrement, à changer d'approche, à ouvrir les fenêtres, les portes des laboratoires et
oui, alors on va dire soyez optimiste, c'est-à-dire qu'il y a, mais faut savoir ce qu'on dit, ça a déjà plus de 20 ans.
Je suis d'accord.
Oui, H5N1 c'est 2005, on l'a déjà dit. Alors il y a des gens qui travaillent ensemble par eux-mêmes parce qu'ils ont envie. Je parle de l'Institut Pasteur, de la Tour du Valais qui travaillent ensemble, François Renaud, le CNRS, etc. Il y a des gens comme
et
ça.
L'IRB, donc aussi des laboratoires dans le monde.
Complètement. Mais on voit qu'actuellement il y a toujours pas. Alors on est un peu mieux armé contre le H5N1. On voit que l'approche est quand même plus rationnelle que lors du H5N1. Mais quelque part, est-ce qu'il y a eu toutes les études faites sur les coronavirus, par exemple chez les chauves-souris? Je donne cet exemple-là. Le SRAS, c'était déjà les chauves-souris le coronavirus. Oui. Et l'idée, ce n'est pas juste d'éliminer les chauves-souris, c'est d'étudier les chauves-souris.
Oui, c'est ça. On s'est bien entendu. Ça n'a aucun sens, d'ailleurs. D'éliminer les chauves-souris n'a aucun
non,
sens.
Non, non. Et puis, vous l'avez pour plein d'autres. En France, vous avez on tire du renard pour les kinococos. Avant, on a tiré les renards pour la rage, alors qu'en fait, il fallait les vacciner. On est toujours dans cette approche de court terme, on élimine, comme les antibiotiques, les bactéries, on élimine, ça va aller. En fait, ça ne va pas. Et c'est là où on a ces notions d'écologie, d'évolution, de dynamique des populations qui sont indispensables pour se préserver, anticiper.
Anticiper, je propose de méditer là-dessus, à l'écoute du zoo sensible et puissant de Françoise Breu sur RFI.
J'ai une araignée dans la tête, échappée d'une plante exotique, m'amuse à compter toutes ses pattes, glisse sur une toile géométrique, elle attend sa proie qui tombera, au bon moment dans ses filets de soie, elle attend sa proie qui tombera, au bon moment dans ses filets de soie. Lance les sons.
Françoise Breu sur RFI, autour de la question comment repenser ensemble tout le vivant et pourquoi c'est urgent de le faire. Nous sommes en compagnie du chercheur Michel Gauthier-Claire, spécialiste de l'écologie de la conservation, docteur en médecine vétérinaire et en écologie, qui vient de publier aux éditions de Buck La belle histoire de la vie, magnifique album superbement illustré, après avoir co-dirigé l'écologie de la santé, écologie de la santé et biodiversité, dont vous êtes le co-auteur avec Frédéric Thomas, et dans lequel vous nous alertez il y a 10 ans déjà, on l'a dit, Michel Gauthier-Claire, sur les liens entre la perte de la biodiversité et les crises sanitaires, les virus émergents, les liens obligatoires à faire entre santé animale, santé humaine et perte de biodiversité. On a parlé des zoonoses, des oiseaux sur lesquels vous avez travaillé, on a parlé de la grippe porcine, des chauves-souris. Pourquoi et quels sont les animaux qui sont de vrais réservoirs à virus et qu'on devrait non pas éradiquer, on est bien d'accord, mais surveiller, étudier, protéger peut-être pour nous protéger.
Alors il y a beaucoup d'animaux qui sont porteurs en fait de parasites, de bactéries, de virus qui ne sont pas nécessairement des problèmes. Des fois, voilà, il y a des formes qui peuvent passer à l'homme et puis qui peuvent avoir des impacts particuliers. Donc je dirais qu'il y a ce que disait François Renaud, il y a un écosystème général avec énormément d'agents pathogènes dans le monde entier. Puis après, il y a des cas très particuliers qui sont, par exemple, le cas des chauves-souris, dont on sait qu'elles sont porteuses de virus pour lesquels elles n'ont aucun problème. Dans le cas des coronavirus, pour se défendre, elles ont un système immunitaire particulier qui leur permet, en fait, les virus n'arrivent pas en fait à dépasser leur système immunitaire, donc elles sont en bonne santé.
Et elles vivent avec ces chauves-souris, voilà. Elles vivent avec tout un tas de pathogènes, comme nous on vit avec notre propre microbiome.
Exactement.
C'est ça,
voilà. Alors ces virus, apparemment, alors voilà, il y a des études qui commencent à apparaître. C'est pas élucidé justement, mais apparemment, on serait obligé de se répliquer, d'aller très très vite pour essayer de dépasser le système immunitaire de la chauve-souris. Elle arrive à adapter à ces virus. Et le problème, c'est quand elle passe, par exemple, à d'autres mammifères ou à d'autres humains qui eux sont pas adaptés à ces virus-là, ils arrivent sur des formes très virulentes sur lesquelles nous on n'est pas adapté.
Ah oui, parce qu'en fait, ils ont fait leurs armes sur les chauves-souris sans arriver jamais à gagner la course. Enfin, je schématise
voilà.
Un peu.
Ils vivent avec la chauve-souris, voilà. Puis ça coévolue. Et puis, et quand ils arrivent chez nous, on n'est pas adapté, ou à d'autres espèces qui servent de transition. Là, on parle du pangolin. Voilà, tout ça, c'est encore à confirmer.
Qui seraient des espèces de transition, un peu comme il y a eu la civette aussi dont on a parlé. Il y a aussi pour Ebola ou pour le VIH, ce seraient les singes. L'intermédiaire, c'est ça? Ou je vais trop vite.
Ouais, bah alors on va
pas tout mélanger dans le même panier. Allez-y.
Il y a des écosystèmes où vous avez, on va dire, écosystèmes type par exemple les canards et grippes, ça coévolue comme ça depuis des milliers d'années. Et puis actuellement, avec notre action en fait, où on est actuellement, les humains sont le principal facteur de l'évolution en fait, parce qu'on est partout et voilà, on mange tout le monde, on perturbe tous les écosystèmes, voilà. Et Et donc, on rentre en contact avec ces pathogènes sur lesquels, ou des agents qui n'étaient pas spécialement pathogènes. Et la probabilité, en fait, qu'on attrape de nouveaux pathogènes et qu'après, ils deviennent plus virulents ou ils sont tout de suite. Et après, qu'on les diffuse, parce qu'on est de plus en plus nombreux, on a des transports extrêmement mondialisés et performants. Voilà. Et donc, la probabilité maintenant que ces choses arrivent est extrêmement forte. On est très nombreux partout. On voyage très vite et donc on a augmenté la probabilité d'avoir ces problèmes en fait d'épidémie. Et après, on peut parler de pandémie. Ouais.
On peut parler de pandémie, mais ce que vous dites, vous, on va venir sur les manières de lutter contre. Hein, on n'est pas dans le temps maintenant, on est sur du temps long. Mmh. D'essayer de comprendre comment les autres animaux, ceux qui vivent avec ces pathogènes, notamment les chauves-souris, fonctionnent.
Exactement, c'est la recherche fondamentale, c'est-à-dire d'essayer, avant quand on arrive, on a le coronavirus là, qui nous tombe dessus virulent, il faudrait déjà de savoir quelle est sa vie normale.
Ouais. Quelle est sa, oui, parce sa... qu'il a une vie normale, le vivant est un monstre.
Je caricature, mais quelle est sa vie normale chez les chauves-souris ou chez les grippes? Quelle est leur vie normale depuis des milliers d'années chez les canards? Quand on a compris ça, on ne sait pas exactement tout ce qu'on va découvrir. Mais c'est... Je prends l'exemple du microscope. Vous voyez, quand on prend le microscope, on ne savait pas qu'on allait voir des bactéries. Bon, on ne sait pas quelle porte on va ouvrir. On va découvrir des choses et on va trouver des solutions. Donc, c'est déjà de savoir quelle est la façon normale dont ça se passe et on pourra savoir comment agir aussi ou anticiper une éventuelle crise.
Et oui. D'autres chercheurs comme vous, Michel Gauthier-Claire, travaillent, s'investissent hein, dans ces recherches, donc à l'interface, on l'a compris, entre environnement, santé animale et santé humaine. C'est le cas au Gabon, au CIRM, enfin, le Centre international de recherche médicale de Franceville, qui a été à la pointe, notamment autour de la lutte contre les virus Ebola ou Marbourg. Je propose d'écouter le responsable, le co-responsable de l'unité émergence des maladies virales du CIRM, qui a été, lui, en première ligne de la lutte contre le virus Ebola. Il s'appelle Gaël Maganga. On va le retrouver dans un extrait d'un excellent documentaire qui date lui aussi de 2014 quand même, je n'ai pas exagéré, qui date de 2014. Épidémie, la menace invisible, diffusée sur Arte, réalisée par Anne Poiret et Raphaël Itier, où l'on suit donc à la trace, dans les grottes du bassin de Franceville, Gaël Maganga et son équipe partent récolter ces réservoirs de virus que sont les chauves-souris.
Voilà votre cadeau, docteur.
Oh, mais celle-là, elle est là depuis. Et puis, non. On la tient avec les gants.
J'avais peur du virus Ebola. Ici, il n'y a pas le virus Ebola.
C'est ça qu'on va justement essayer de chercher. Il faut éviter tout contact avec l'éjection ou tout produit de sécrétion ou d'excrétion. Et même avec tous les supports potentiellement contaminés.
Il y a eu des cas de contamination de chercheurs. Mais c'était surtout des spéléologues qui allaient dans des grottes. Et même pour. Il y a eu des cas de contamination pour le virus Marbourg. Donc toujours des spéléologues, des gens qui allaient en visite, même des touristes qui rentraient dans les grottes et qui au sortir de là étaient infectés. Quoi. Il y en a qui se sont fait griffer par des chauves-souris.
Bon, donc tu disais que la sortie c'est là.
La sortie principale c'est ici.
D'accord. Donc si on doit poser le filet, essayez de couvrir tout le long là. Là, nous sommes dans les entrailles de la grotte.
Ouais, le monde des engoutis.
Et là, on entend le battement des ailes.
Ouais, oui.
Des chauves-souris.
Ouais. Avec le bout de la rivière qui coule.
C'est assez impressionnant.
Il coulait là. Toujours bien observer là-bas où on pose le pied.
Il y a vraiment une faune importante dans cette grotte, quoi. Entre les insectes, les crabes, les poissons, les chauves-souris. Ah oui, là, c'est vraiment le milieu idéal pour la transmission de virus ou d'autres agents entre les espèces, quoi. Écosystème fermé, peu de renouvellement d'air, proximité entre les espèces, c'est les conditions rêvées pour la transmission des virus.
Et c'est Gaël Maganga, donc co-responsable de l'unité émergence des maladies virales du CIRM, enfin Franceville au Gabon, qui le dit dans cet extrait de cet excellent documentaire réalisé en 2014, Épidémie, la menace invisible. Au fond, on sait quels animaux, comment sont des réservoirs à virus. Donc il faut continuer de remonter cette chaîne-là. Finalement, ça semble, comment dire, à portée de nous, cette compréhension du vivant, cette autre compréhension du vivant ensemble. Michel Gauthier.
Dans le cas des chauves-souris, on sait qu'elles sont potentiellement le réservoir de pathogènes qui pourraient être très virulents pour nous. Et puis après, il y a tout ce qu'on ne sait pas parce qu'on n'est pas allé voir.
Bien sûr.
Et donc, il faut aller voir juste pour comprendre et anticiper tout ce qui se passe. Donc,
qu'est-ce qu'il faudrait aller voir comme ça, Michel Gauthier-Clerc, si vous aviez, on va dire, les moyens de le faire et si on vous dit, mais allez-y, ce qu'on a vraiment envie de vous dire.
Alors, je ne vais pas faire juste les promotions des disciplines dans lesquelles je travaille, mais c'est vrai que tout ce qui est écologie évolutive, c'est quelque chose qui est... Il y a quand même une hiérarchie, en fait, dans la société ou des politiques, des disciplines scientifiques. Et c'est vrai que si vous êtes pneumologue, voilà, à la Salpêtrière, ou si vous êtes grand virologue, les portes vont plus s'ouvrir que si vous dites « je suis écologue ». Vous voyez ce que je veux dire ? Et je travaille sur les petits oiseaux en Camargue. Alors qu'en fait, on pourrait probablement, en comprenant en fait comment fonctionne la nature, c'est ce qu'on appelle l'écologie fonctionnelle, l'écologie évolutive, comment elle évolue. Je reviens sur Darwin, ou les naturalistes, quand ils décrivaient les espèces, on ne savait pas qu'ils allaient nous faire comprendre d'où on venait, c'est-à-dire avec l'évolution, la sélection. Donc quand on va aller voir ça, on va trouver plein de choses, quoi. Donc c'est comment on arrive à promouvoir cette approche de comprendre comment fonctionne la nature, et ça s'appelle l'écologie fonctionnelle.
Et ça s'appelle l'écologie, et ça permet aussi de faire face, alors, puisque tout est lié à cette crise, ces crises sanitaires aujourd'hui, ces zoonoses, mais pas seulement, ça permet aussi peut-être de mieux comprendre la biodiversité en général. C'est pas pour rien si vous venez de publier La belle histoire de la vie. Nos auditeurs à Ouagadougou nous disent, mais finalement, est-ce que la vie en général, et surtout animale et végétale, pourra s'adapter au changement climatique dû à l'homme, ou est-ce qu'on est condamné à perdre la biodiversité? Au fond, c'est le même combat. C'est ça qu'on a du mal à comprendre, mais c'est le même combat. Enfin, le même combat, c'est le même travail à mener.
Ah oui, puis maintenant, si peut-être, je ne sais pas, il y a quelques siècles, ou même il y a 100 ans, on pouvait faire un peu... Bon, il y a les milieux naturels et il y a nous, mais ce n'est plus tout ça. Maintenant, on sait que la quasi-totalité, en fait, des milieux naturels, enfin, ce qu'on dit naturels, ne sont plus naturels. Ils ont un impact humain, même en Antarctique. On ne parle quasiment plus, en fait, de milieux naturels ou de milieux primaires. Donc, l'humain est partout. Donc, actuellement, quand on veut essayer de comprendre la biodiversité, conserver la biodiversité, on est complètement avec nous. Tout est imbriqué, actuellement. Et on le voit bien avec les pathogènes. C'est imbriqué. On va consommer... Vous voyez, si on arrêtait de manger de la viande de brousse, vous voyez, si on arrêtait d'aller consommer tous les animaux sauvages, dont certains sont en danger, on va quand même les consommer. Il y a du trafic. Et après, on se prend le coronavirus. Vous voyez l'impact. On a un krach boursier. On a des pays en quarantaine. L'argent que ça va coûter, si on l'avait mis peut-être un peu en amont à la conservation de la nature, à la compréhension de la nature, peut-être qu'on aurait économisé de l'argent. Mais ce qu'il y a, c'est que ça ne se voit pas parce que c'est du long terme.
C'est du long terme, hein, cette interdépendance de tout le vivant sur Terre et même au-delà. Allez, je ne résiste pas à vous faire écouter une très jolie formule, c'est celle de l'astrophysicien Trinh Xuân Thuan.
Nous savons aujourd'hui que nous sommes tous ces poussières d'étoiles et que la plupart des atomes constituent nos corps proviennent de la fusion nucléaire dans les étoiles. Et donc les étoiles sont nos ancêtres, nous partageons tous la même généalogie cosmique, nous sommes les frères des bêtes sauvages et les cousins des coquelicots des champs.
Nous sommes les frères des bêtes sauvages et les cousins des coquelicots des champs, à méditer à l'écoute d'IBI sur RFI Transmission.
transmission, lighting in the layers of the past. At last, we sing in our dearest try, facing the clearest sky. Singing our tears to dry. We sing in our dearest try, facing the clearest sky.
Les jumelles d'IBI avec la rappeuse Michele Geocello sur RFI. Avec ce titre extrait de leur deuxième album, Transmission, Mike et Lyon, inspiré par la fable de l'arbre du Ténéré. Autour de la question, comment penser ensemble tout le vivant et pourquoi il y a urgence aujourd'hui à développer une recherche interdisciplinaire pour faire face à la fois, parce que tout est lié aux crises écologiques et sanitaires, tout est interdépendant, comme tout le vivant que nous sommes. Nous sommes en compagnie d'un chercheur engagé, justement à l'interface entre écologie et santé animale et humaine, Michel Gauthier-Clerc, qui vient de publier La belle histoire de la vie dans toute sa diversité et dans toute sa fragilité aussi, d'où l'intérêt peut-être d'écouter, de développer cette éthique de la vulnérabilité et de la considération, développée par une philosophe, Corinne Pélichon, qui était notre invitée en 2012. Déjà, écoutez, ça parle toujours pour aujourd'hui.
Il me semble que la crise écologique est plus qu'une crise des ressources et qu'elle fait signe vers une manière d'habiter la nature, d'habiter la terre. Et le mot habiter est, je crois, tout à fait intéressant parce que c'est l'idée que c'est une réflexion sur ce dont nous vivons, qui est à la fois naturel et culturel. Nous vivons de bonnes soupes, mais aussi de villes, de cinéma, d'aliments, de penser, si vous voulez, l'écologie au sein d'une philosophie de l'existence et de penser ce que cela veut dire pour l'homme, pas seulement d'être au monde, mais d'être aussi à la nature, d'user des vivants et des ressources et de penser la justice comme partage des ressources avec évidemment les autres hommes présents et à venir et les autres cultures. Et je crois que pour arriver à élargir l'éthique ou plutôt à décentrer un petit peu l'éthique afin de prendre en considération le sort des hommes présents et à venir et aussi le sort des autres espèces, eh bien il ne faut pas penser à la crainte seule, parce que le catastrophisme, ça pousse chacun à finalement à prendre son plaisir immédiat parce que, bah, évidemment, on se dit alors à quoi bon ? Alors que justement, l'idée, c'est plutôt de voir comment on se pense soi-même et intégrer au cœur de son vouloir vivre le souci pour les générations futures et le souci pour les autres espèces. Donc ça veut dire que c'est une modification profonde du rapport à soi-même par le rapport aux nourritures, aux ressources, qui sont également un rapport aux autres espèces.
Vous partagez cette approche, cette éthique de la vulnérabilité développée par la philosophe Corinne Pélichon, Michel Gauthier-Clerc.
Mais et totalement, et je prendrais, on en a déjà parlé, mais l'exemple des antibiotiques, c'est-à-dire ouais. Si on pense qu'à soi, ben, mettez-moi tous les antibiotiques possibles et puis, voilà, et puis ça va me soigner moi. Et si on se met à penser à ses voisins, sa famille, à ses suivants, c'est attention. Là, donc on prend, c'est la notion de risque qu'on prend. Ok, là je ne l'utilise pas, le risque est... En médecine, c'est une notion de probabilité de risque, c'est très faible risque que ça soit, que voilà, et on doit penser effectivement aux autres, au futur, donc c'est quelque chose qui est très important. Et par rapport à la nature, ces notions de peur, elles sont extrêmement importantes, puisque les gens à la télé vont dire la nature est belle, souvent, voilà, on veut la conserver. Et puis dès qu'ils vont avoir un problème, je reviens sur la Camargue, dès qu'il y a eu une maladie qui s'appelait le West Nile, il n'y avait aucun souci à l'époque, c'est ah là là, ça devient, la nature devient un
les
problème.
Les moustiques,
une maladie, etc. Ouais. Et la nature redevient méchante, redevient un danger. Donc c'est toujours cette balance, on essaye de contrôler, on a besoin de contrôler pour nous, et on le fait tout le temps. Hein. C'est la médecine, c'est la physiologie.
On veut se préserver, la force du vivant aussi.
Exactement. Voilà. Là, on veut préserver la nature, mais il faut être conscient que quand il y a un problème, on n'a pas besoin de sortir la grosse artillerie. Voilà, je reviens sur les renards, c'est pas la peine de tirer tous les renards, ça pose plus de problèmes. Il n'y a pas besoin d'utiliser tout le temps des antibiotiques. Voilà, c'est comment on arrive à avoir cette coexistence.
Mais comment on fait aujourd'hui où la Terre est effectivement très peuplée, où c'est vrai qu'on tombe vite dans le catastrophisme? En même temps, on se dit, moi j'ai eu au téléphone des médecins ou des chercheurs africains qui me disent, mais attendez, il y a aussi la tuberculose, il y a aussi Ebola, il y a aussi... On a l'impression que nous, en tout cas en Occident, Moi-même, j'ai peur. Voilà, je peux avoir peur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on fait avec ça? On va en parler, nous, la semaine prochaine sur RFI. Mais quel est votre point de vue à vous? Comment faire pour être peut-être un peu moins égoïste? Et en plus, ça nous servirait aussi. Enfin, moi, je trouve que cette, quand on se rend compte que c'est interdépendant et qu'on est tous liés, ça peut faire réfléchir un peu. Mais comment est-ce qu'on fait par rapport à la peur des insectes? Je vous vois aussi les sourcils. Mais comment vous faites-vous? Tiens, non, mais c'est quoi votre éthique à vous?
Parce que je ne sais pas quoi dire aux autres. Moi c'est-à-dire que moi, je vis avec. Vous voyez, je vis en nature. Donc, je vis aussi avec les problèmes de la nature. C'est-à-dire que la nature, elle est belle, mais quand on la prend au quotidien, elle est compliquée, elle est dure. Donc, c'est comment on vit avec. Donc, c'est aussi cette... vous voyez, on dit tout, on essaie de mettre face à face ce qui est faux, hein, les citadins et les ruraux. Moi, je n'aime pas cette distinction. Mais c'est vrai que quelqu'un qui ne vit jamais la nature ne va l'avoir qu'à travers un écran, ne peut l'avoir que belle. Quelqu'un qui est dans la nature va en comprendre aussi toutes les limites. Vivre avec, c'est joli, mais on a besoin aussi de garder aussi ce contrôle, se préserver. Quoi.
C'est ça, c'est un équilibre, finalement. Comment équilibrer tous ces écosystèmes, comment être en équilibre, finalement. Et puis, c'est le vivant, hein, qui est complexe, c'est pas noir ou blanc, enfin c'est ça, mais faut qu'on l'intègre vraiment.
Alors, il y a la notion de peur, ça on peut la gérer, je dirais, soi-même, les risques qu'on accepte de prendre, cette notion de, voilà, on est vulnérable, la notion de risque. Alors après, si on se place à 30 ans, voilà, comment faire, ça je sais pas, parce que voilà, on a une démographie énorme, on a beau dire, il faut arrêter de taper dans les ressources, faire attention, ça change pas, l'émission de carbone, pour l'instant, ça continue d'augmenter, donc c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas les efforts faits par rapport à... On sait où on va. Là, donc, notamment, je prends les ressources, je prends juste le poisson, hein, qui concerne la France. Vous avez la pêche, les pêcheries. Bon, ben, on a beau le dire depuis des dizaines d'années, on continue à taper dans le stock. Et vous avez ces lobbies ou ces groupes d'acteurs, hein, qui sont... Et on n'arrive pas à débloquer le système.
Espérons peut-être que toutes ces crises environnementales, sanitaires, qui touchent partout, hein, dans le monde entier, permettront peut-être de nous faire réagir. Sinon, moi, je renvoie sur votre ouvrage, parce que là, effectivement, c'est pas que la beauté de la nature. Les images sont magnifiques dans La belle histoire de la vie, mais vous parlez de tout, du meilleur comme du pire, du monstrueux et extraordinaire vivant qui est en nous et autour de nous. Merci beaucoup, hein, Michel Gauthier-Claire.
Merci à vous.
Pour toutes ces pistes de recherche, d'interrogation et de réflexion, je rappelle donc le titre de cet ouvrage paru aux éditions de Beck, La belle histoire de la vie, pour explorer en images notre fabuleuse, commune et indissolublement liée histoire de tout le vivant. Merci à vous.
Merci.
Contactez autour de la question @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous réécouter, nous podcaster à volonté en vous abonnant par exemple à notre podcast sur votre application favorite. Merci en tout cas pour votre écoute, pour votre curiosité sans cesse renouvelée. Au plaisir de vous retrouver lundi, chers amis auditeurs, pour nous interroger sur notre cerveau. Vous êtes cerveau droit ou cerveau gauche? En fait, c'est encore une fois les connexions, les liaisons entre les deux qui marchent. Vous en saurez plus lundi. Toute notre petite équipe, Hugo Viola à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Nachowski, vous souhaitons le meilleur et vous invitons à garder l'esprit libre et ouvert à tous les possibles à l'écoute de RFI. C'est bientôt l'heure du prochain journal.